Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de parler à Masha Gabriel, ancienne directrice de cette maison, Radio Sefarad, qui dirige actuellement Revista de Medio Oriente, la revue du Moyen-Orient, une publication éditée par l'organisation Camera, dans le but d'analyser et de surveiller les articles sur le Moyen-Orient qui sont publiés par des médias hispanophones. Masha, bonjour.
Bonjour Pascal, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec toi en français sur Radio Sefarad.
Comment vas-tu? Et là, je ne peux pas faire autrement que de te tutoyer, sinon ça sonnerait vraiment faux.
Oui, ce serait bizarre de se vouvoyer. Ça va très bien. Je suis en train de, en ce moment, de faire l'analyse de nouveau des médias, de revoir un peu l'année. Mm-hmm. Début d'année, pour voir si ça va un tout petit peu mieux que l'année dernière.
Ouais, mais ça, on va en parler au fur et à mesure. Mais avant tout, pour les auditeurs qui sont moins habitués à ta revue et à Camera, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'action de la revue que tu diriges dans le cadre de l'organisation Camera?
Oui, Camera, c'est le Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America. Donc, c'est une association qui fait l'observation des médias. On surveille les médias, comme tu as bien dit avant. Mmh. Et pour essayer d'éviter qu'il y ait du bias, comment on dit, de la...
Des distorsions. Des distorsions.
Des distorsions anti-israéliennes en général, mmh. parce qu'il n'y a pas... On ne voit pas beaucoup de distorsions anti-palestiniennes. Et nous sommes là, on se dirige aux médias, on parle aux médias, on leur dit, écoutez, ici vous vous êtes trompé, ici on considère que l'information n'a pas été complète, ici vous avez un peu distorsionné. Et c'est ce que nous faisons, surtout dans les médias américains, c'est ce que Camera fait avec les médias américains. Et moi, je me charge des médias en espagnol, Revista Medio Oriente. Nous avons aussi un département qui s'occupe des médias en hébreu, c'est Perspectiva. Mm-hmm. Perspectiva. Le but est de demander un journalisme plus conscient, plus professionnel et moins idéologisé, si on peut dire ce mot, on peut dire idéologique.
Moins idéologique, hein, oui.
Ouais.
Ouais, moins idéologique, certainement. Oui, donc on parle de distorsion, on parle de mensonge, peut-être, ou de vérité incomplète. Qu'est-ce que tu rencontres, ou qu'est-ce que toi et votre équipe rencontrez le plus dans les médias ces contre-vérités auxquelles vous vous attaquez le plus? Est-ce qu'on peut parler d'antisémitisme, par exemple?
Je pense qu'on peut parler d'antisémitisme sans complexe. On dit que on ne peut pas, on dit qu'on peut toujours critiquer l'Israël, ça veut pas dire d'être antisémite, ce qui est vrai, mais un peu l'obsession de critiquer l'Israël, que l'Israël, ça fait un peu antisémite, honnêtement. C'est tout de même le seul État juif qu'il y a au monde, et il y a une espèce d'obsession, une espèce je dirais même il y a une certaine rancune dans certaines mmh. dans certains des articles qui sont écrits envers l'Israël.
Oui. Rancune et rancœur, j'imagine.
Oui, un peu de tout, mais vraiment c'est bizarre parce qu'on pense à l'Europe qui écrit des articles qui tout de même au sujet de l'antisémitisme devrait un tout petit peu avoir appris la leçon. Et on a appris la leçon par rapport aux Juifs, en tant que, excusez-moi l'expression, mais en tant que Juifs morts. Mmh. Si on parle des Juifs de l'Holocauste, on parle des Juifs expulsés de l'Espagne en 1492, alors oui, on est très sensibilisés, on sent de la pitié. Mmh.
La compassion.
On parle d'eux avec, oui, mais lorsqu'on parle de l'Israël, c'est-à-dire des Juifs qui sont encore vivants, Le traitement est complètement différent. Mmh. Il y a cette fameuse phrase, je ne sais plus qui l'a dit, mais l'Europe ne nous pardonnera jamais aux Juifs Auschwitz. L'Europe ne nous pardonnera jamais l'Holocauste. D'une certaine façon, il y a une espèce de, quand je disais avant rancune, mais il y a une espèce de
retour de manivelle, peut-être.
Oui, en fait, si l'on prouve que les Israéliens sont vachement méchants, alors, bon, oui, l'Holocauste était terrible, mais tout de même, ils ont un tout petit peu mérité.
Ce serait une façon d'atténuer un petit peu le poids de l'histoire, la charge de l'histoire.
Oui, mais ça, je crois que c'est pas ce qu'il y a. Honnêtement, c'est pas ce que je crois qu'il y a dans la tête du journalisme, alors d'écrire. Moi, je crois que le journaliste, il arrive en Israël ou bien il écrit, je sais pas, au bureau de Paris ou Madrid ou que ce soit, et il pense pas à ça. Mais tout de même, il a une espèce de, je dirais pas de laine, mais il a de la haine, mais je dirais qu'il a un peu de
d'a priori oui, peut-être.
Pardon ?
D'a priori, de préjugés ?
Non, sans doute des préjugés, ils sont pas mis des nuances. Alors lorsqu'on est en train de parler d'Israël, tout de suite ils parlent de racisme. Et là on parle des médias plutôt professionnels. Lorsqu'on est en train de parler des médias qui sont même pas professionnels, qui sont que de l'idéologie, alors là ils te parleront de apartheid et de ils font mais ils font pas vraiment une étude en profondeur, ils n'expliquent pas. C'est comme si les journalistes allaient à Paris et n'allaient que parler du racisme contre les musulmans, par exemple. Ben évidemment, il y a du racisme contre les musulmans, ce qui est pas bien du tout, mais c'est pas la France. Il y a pas que ça en France.
C'est ça.
Il y a une volonté de montrer qu'une seule partie, qu'un seul aspect de l'Israël, et c'est toujours négatif, c'est toujours péjoratif, c'est toujours un aspect qui va donner une mauvaise image du pays. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, et ça on peut le voir dans les médias en espagnol, et je crois qu'on peut le voir aussi en France, ce sont des médias qui, disons que la nouvelle mode, c'est de faire recours, de toujours utiliser l'ami juif, c'est-à-dire selon cet écrivain, nous avons Gideon Levy, Amir Haas, Haaretz est toujours très utilisé, ou des NGO, des organisations non gouvernementales anti-israéliennes. Alors c'est toujours l'excuse qu'on met, alors là moi je suis pas antisémite, moi je suis pas anti-israélien, écoutez, je parle de ce que Amir Haas a dit à Haaretz. Alors tu dis oui, bien sûr, mais il n'y a pas que Amir Haas.
Il n'y a pas que Gideon Levy, il n'y a pas que Breaking the Silence.
Évidemment, il y a le mainstream israélien, vraiment l'israélien qui travaille pas dans les médias, mais l'israélien qui travaille, l'israélien moyen.
Oui,
celui-là, il est pas représenté dans les médias.
Oui, exact.
On ne parle pas de celui-là. On ne parle que de l'israélien raciste. Et quand il faut faire une analyse, on parle que de l'occupation. Alors que l'occupation, ça c'est très important, s'en souvenir, c'est une conséquence de la guerre, c'est pas la cause. Il n'y avait pas d'occupation en 1948, à moins que vous pensiez que l'Israël n'a pas le droit d'exister. Alors ça c'est un autre débat, c'est une autre discussion. Mais lorsqu'on parle d'occupation et qu'on fait que l'occupation est la clé de tous les problèmes au Moyen-Orient, alors c'est oublier qu'il y a eu plein d'attaques dès 1920, des années 20, contre les Juifs, même avant la création de l'État d'Israël. Et puis après la création de l'État d'Israël, après l'indépendance de l'État d'Israël, avant qu'il y ait occupation, il y a eu tout de même deux guerres.
Exact. Mais justement, un de vos travaux, toi et ton équipe, ne consiste pas seulement à publier des démentis, des rectifications dans la revue, mais également à contacter les personnes concernées, les journalistes, les éditeurs, les responsables de ces publications. Et vous, avec tout votre bagage, avec toutes vos connaissances, vous confrontez vos connaissances par rapport à ce qui était publié. Et quelles sont les réactions de vos interlocuteurs en général ?
Il y a de tout. Là, il y a une grande variété de réactions. Il y a évidemment la réaction du journaliste. En général, ce sont des journalistes qui ne veulent rien savoir de ce que tu as à dire. Immédiatement dans la conversation, ils te disent « Ouais, mais vous, les Israéliens ?» Alors tu dis « Non, moi, je ne suis pas israélienne. »« Ouais, mais alors vous, les Juifs ?» Donc là, on parle d'antisémitisme immédiatement. Et puis après, nous avons, et ça c'est vraiment, c'est très intéressant, il y a tout de même des médias qui sont professionnels, il y a des choses qu'ils peuvent pas nier. je me souviens, très important média ici en Espagne, qui avait écrit un article en disant qu'un homme, il parlait d'un chanteur, et il disait que c'était une femme.
D'accord.
Pendant tout l'article, il disait que c'était une femme. Donc le journaliste n'avait même pas regardé de qui il parlait.
D'accord.
C'était un homme, il avait une grande barbe d'ailleurs. Et alors, ce genre de choses, c'est très difficile qu'ils te disent quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais même pour ces choses, même quand tu contactes le journaliste et tu lui dis, écoutez, vous avez écrit comme si c'était, c'est ce qui m'est arrivé moi, vous avez écrit comme si c'était un homme, et c'était une femme et c'était un homme, ils m'ont jamais répondu.
Wow.
Ce journaliste n'a pas répondu, il n'a rien dit. Il m'a simplement bloqué sur Facebook ou Twitter, je ne sais même plus quoi.
Mm-hmm.
Mais on est en train, vraiment c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent aux médias, l'attitude des médias. Moi, il y a Matti Friedman de AP, de Associated Press,
mm-hmm.
qui a écrit, je crois que ça fait déjà deux ans, un an ou deux, il a écrit une série d'articles, si je ne me trompe pas, c'est sur Tablet Magazine, mais bon, c'est Matti Friedman, vous trouverez bien. Et il écrivait justement au sujet des journalistes, et comment la plupart des journalistes, ils arrivent au Moyen-Orient, et ils savent déjà ce qu'ils vont écrire. Ils vont au Moyen-Orient pour prouver que les Israéliens sont méchants, pour sauver les Palestiniens, c'est-à-dire, ils ne se voient pas eux-mêmes comme des journalistes. Ils viennent sauver le monde. Ils viennent. Ils veulent tous être, des sauveurs, des activistes. Ils pensent qu'ils ont la raison. Ils pensent qu'ils savent quel est le problème du monde. Alors ils viennent solutionner le monde.
Mmh.
Et malheureusement, ils pensent que le problème, c'est l'Israël.
Oui.
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on contacte avec eux. Mais quand tu parles avec un journaliste, tu dis à un journaliste, écoutez, vous êtes trompé. Il va te dire, ouais, je me suis trompé, je suis désolé, je vais corriger pour la prochaine fois.
D'accord.
Alors là, il n'y a aucun problème.
Mm-hmm.
Mais si tu parles avec quelqu'un qui ne se voit pas lui-même comme un journaliste, mais comme un activiste, mais comme la personne qui vient sauver la race humaine ou je ne sais pas quoi, alors là, c'est plus difficile, il ne veut pas t'écouter, il ne veut pas t'entendre, il n'a rien à parler avec toi.
Mm-hmm. Oui,
parce que... ouais, d'accord, je me suis bourré, c'est pas une femme, c'est un homme, mais c'est pas le problème. Il va pas t'écouter.
Oui.
Alors on trouve ces deux images dans le journalisme. Malheureusement, le journalisme, ce qu'on appelle ici periodismo humano, je sais pas s'il y a un équivalent en français, c'est le journalisme humanitaire,
oui.
C'est là où il n'y a pas d'objectivité, là où le journaliste il doit faire partie de l'histoire. Malheureusement, ça devient quelque chose de très très habituel.
Mais peut-être que tu me diras si je me trompe, mais peut-être que la grande difficulté dans votre travail, hein, c'est justement de montrer votre vérité, montrer la vérité à des journalistes qui en général, ont une grande idée d'eux-mêmes. Et d'abord, c'est la difficulté de remettre en question leur professionnalisme. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus un écueil, une difficulté plus profonde qui est d'ordre psychologique, c'est-à-dire de remettre en question l'existence même, parfois, des gens et leur conviction, c'est ce qu'on retrouve souvent parfois, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les questions d'antisémitisme. Tu ne penses pas ça ?
Oui, mais là... Mais là, le problème avec les préjugés, c'est impossible d'en parler. C'est impossible. Vraiment, quand tu parles avec le journaliste, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, c'est quelque chose comme, ce qui est mauvais dans l'ignorance, c'est pas tout ce qu'elle ignore, tout ce qu'elle ne sait pas, l'ignorance, mais c'est tout ce qu'elle croit savoir, mais elle ne le sait pas bien.
Mmh.
Alors, ça, c'est terrible. Alors, tu parles avec des gens qui c'est pas qu'ils comprennent rien, ils ont déjà une compréhension avant d'y arriver. Ils savent ce qu'ils vont raconter, ils savent quelle est l'histoire. Ils pensent savoir, ça veut pas dire qu'ils savent, mais ils croient savoir ce qu'est l'histoire. Ils croient savoir quelle est la réalité. Alors, quand ils sont là-bas, ils se groupent avec des gens qui ont exactement la même vision, le même point de vue. Ils vont lire que des articles qui vont les rassurer parce qu'ils vont, ils vont croire qu'ils ont raison. Ils vont pas ouvrir un tout petit peu leur porte ou leur cerveau pour d'autres, à d'autres histoires, à d'autres versions. Ça les intéresse pas. Alors, quelle est la communication que tu peux avoir avec une personne comme ça? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que tu peux dire à un journaliste qui veut pas t'écouter?
Oui, il y a une force de groupe très importante. Et moi qui vis à Jérusalem, j'en suis témoin et je retrouve parfois certains correspondants, toujours les mêmes, attablés à la même table, dans le même bar et avec les mêmes journaux. Et c'est une image très caractéristique à Jérusalem et tu sais que ils vont plus ou moins publier la même chose. C'est lié à leur statut de correspondant, c'est-à-dire qu'ils vont pas, commencer à être aventuriers. Ils vont plutôt se réunir entre eux et veiller à ne pas écrire quelque chose de différent du voisin. C'est vrai.
Tu sais, la dernière opération militaire, nous avons fait une étude sur tous les articles des correspondants à Gaza en espagnol. Mmh. Il y avait 5 ou 6 correspondants en espagnol à Gaza. On les a tous lus, tous suivis. Vraiment, ça a été très, très intense. Ils ont tous raconté exactement la même histoire.
Ben oui.
Les mêmes témoins. Les mêmes petites histoires, les mêmes grandes histoires, les mêmes lectures, les mêmes analyses. C'était tout exactement la même chose. Évidemment, ce qui est normal, c'est pas un problème. T'arrives quelque part, t'es un étranger, tu veux qu'on t'aime, tu veux avoir des copains, alors tu trouves tes copains. Et surtout, vous pensez tous la même chose au début. Le problème, c'est que, en tant que journaliste, vraiment, le lecteur, le spectateur, il devrait pas souffrir ton point de vue. Moi, je m'intéresse pas à ton point de vue. Moi, je veux que tu me racontes ce qui se passe en Israël. Je veux avoir l'information, je veux pas que tu me dises, je veux pas que tu me diriges envers ta version, je veux pas que tu me dises ce que je dois penser ou comment je veux pas que tu juges. Je veux que tu me racontes une histoire. Et tous ces journalistes, ils sont devenus juges. Ils sont là-bas pour juger qui est le méchant, qui est le gentil, qui est le bon, qui est la victime. Alors, c'est très difficile de parler à ces gens. C'est très difficile de leur expliquer parfois que tu penses je sais pas, qu'ils font une erreur. C'est pas comme ça, vous avez pas bien contextualisé, vous avez oublié ceci, vous revenez toujours, vous commencez toujours avec l'occupation. Alors par exemple, ce que je disais avant, quand tu leur dis, ben écoute, si le problème c'est l'occupation, alors pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre de 48? Pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre de 67?
Bah, évidemment.
Alors là, la réponse c'est que tu es une facho aux zionistes ou quoi que ce soit.
Oui. Bien. Nous voulions parler de l'année 2015, un petit bilan. Comment avez-vous vécu cela de l'intérieur de caméra de
revista? L'année 2015, en général, dans les médias espagnols, on peut dire que ça a été une année un tout petit peu meilleure que 2014. Aussi, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de confrontation militaire. La seule chose qu'il y a eu, ce qui est très grave, mais la seule chose qu'on a vue, ce sont des attaques contre les Juifs en Israël. Alors, des attaques contre les Juifs en Israël, ça n'intéresse pas tellement.
Oui, on en parle moins.
On en parle moins. Il n'y a pas tellement de sympathie envers les Juifs. On trouve que ce sont des colons. On trouve toujours des façons de raconter l'histoire sans que ce soit trop évident que les Palestiniens sont en train d'attaquer les Juifs. Alors là, oui, on peut. Il y a cette discussion, si tu veux, avec les médias. Mais du moment où il n'y a pas de victimes palestiniennes, il n'y a pas cette espèce de démarche des médias où immédiatement tu as toute cette machine anti-israélienne qui se met en marche et que... Alors c'est là le problème, c'est là où tu te sens, tu dois lutter pour expliquer la réalité, pour démontrer qu'ils se trompent. Mais quand il n'y a que des Juifs qui sont victimes, alors ça ne s'intéresse pas tellement. Alors oui, peut-être notre objectif serait qu'on en parle un tout petit peu plus, mais c'est pas le même intérêt.
D'accord. Quelle est la pire difficulté, peut-être ta plus grande frustration à laquelle tu es exposée dans ton travail au jour le jour depuis que tu as commencé?
Eh ben, il y a deux choses qui sont très difficiles. D'un côté, c'est l'aspect un peu Kafka de la situation. Par exemple, tu parles avec un journaliste et tu lui dis qu'il a dit qu'une femme est un homme ou qu'un homme est une femme. Ouais. Et alors, la réponse est que tu es une facho ou tu ne réponds même pas. Ça, c'est un peu Kafka.
C'est kafkaïen, effectivement.
Ouais, kafkaïen, ouais. Je dirais que c'est pas vraiment l'absurde, c'est kafkaïen. Et puis, il y a une autre chose qui n'a pas tellement à voir avec le travail en soi, mais ça a à voir avec, avec l'ambiance en général. Mm-hmm. C'est cette espèce de condescendance. Mm. Il y a l'activiste anti-israélien avec qui tu confrontes, avec qui tu dis « Non, écoutez, vous vous trompez parce que ceci ou cela. » D'accord. Mais puis tu as toute une série de gens qui sont supposément neutres, qui n'ont supposément aucun point de vue, mais il y a tout de même une espèce de petite condescendance. Ouais, ils disent ceci parce que tout de même ce sont des juifs, alors ils essayent de donner une bonne image d'Israël. Alors tu dis non, c'est pas parce que je suis juive, ceci n'est pas une guerre entre juifs et non-juifs, ceci est une guerre entre deux façons de comprendre la vie. Hmm. C'est pas juif et musulman, c'est pas chrétien et musulman, non. Mais c'est à voir avec deux dynamiques complètement différentes de comprendre la vie et la mort. C'est à voir avec une société qui veut la guerre, qui veut la violence, qui tout de même cherche à mourir en tuant. Ou à tuer et mourir au milieu de sa lutte. Et il y a une société qui c'est une espèce de Thanatos contre Eros. Alors, c'est plus profond que ça. Et tout de même, cette condescendance de certaines personnes qui feignent s'intéresser, mais tout de même sont en train de te dire « Ouais, mais tout de même... t'es juif ou t'es pro-israélien, c'est pour ça que tu dis ça. » Non.
T'es suspect.
La lutte est plus sérieuse. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'Israël. Quand on parle de l'Israël, au fait, quand on parle, quand on veut qu'un journaliste soit professionnel, c'est pas parce qu'il y a Israël. Hein? C'est... Le journaliste devrait être le premier intéressé à faire un bon travail. Mm-hmm. C'est le futur du journaliste qui est en jeu.
Oui.
Et deux, c'est pas Israël contre des Palestiniens. C'est quelque chose de plus profond que ça.
Mmh. Et pour terminer, quelle est ta plus grande satisfaction depuis que tu as commencé à travailler là?
Quand on a réussi qu'un journal comme El País, qui est un très important journal, a commencé à... Avant, il disait que Tel Aviv était la capitale d'Israël.
Bah, ah bon.
Après tout de même quelques années... On peut dire maintenant c'est Jérusalem, ou bien ils ne disent rien. C'est aussi correct. Si tu ne veux pas dire Jérusalem, ok, ne dis pas. Mais tu ne peux pas dire Tel Aviv. Tel Aviv n'est pas la capitale d'Israël.
C'est un de vos plus grands exploits alors, d'avoir réussi à changer ça.
Pardon ?
C'est un de vos plus grands exploits effectivement, d'avoir réussi à changer ça. C'est...
Oui, on l'a pas fait. On l'a pas fait tout seul. Il y a eu tout de même des gens qui ont écrit des lettres. Ça, je demande tout le monde d'écrire des lettres quand vous voyez quelque chose qui vous choque, qui n'est pas bien. Écrivez aux médias. Mm-hmm. On pense qu'ils vont pas nous lire. Ils vont nous lire.
Oui.
Et ça a été quelque chose de très important parce que tout de même dire que Tel Aviv, c'est la capitale. Israël, c'est ne rien comprendre, c'est mentir. Parce que, de nouveau, vous ne voulez pas dire que c'est Jérusalem, ne le dites pas. Mais n'inventez pas. N'inventez pas des capitales là où il n'y en a pas.
Il n'y a qu'avec Israël qu'on invente des capitales qui n'existent pas.
Ah
effectivement.
Oui, absolument.
Macha, merci beaucoup. Je te souhaite à toi et à ton équipe beaucoup de courage et aussi... la même ardeur que celle que tu montres et que vous montrez jusqu'à présent pour dénoncer tout ça pour l'année 2016. Merci beaucoup, Macha.
Merci beaucoup, Pascal, à toi et à Radio Sepharad, et une très bonne année.
À bientôt, au revoir.